Bonjour. Merci à tout le monde d'être venu jusqu'ici. Merci aussi beaucoup aux participants qui ont participé à ce projet et bien sûr aux intervenants. AFSA organise chaque année dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida un projet et une conférence aussi. Donc voilà, cette année c'est Récits de vie VIH et séropositif, acteurs de la prévention. Et je vais tout de suite donner la parole à Khadija qui va parler un peu plus d'AFSA et du projet.
D'accord. Merci beaucoup. Avant de parler donc des projets d'AFSA, je voudrais faire une petite introduction par rapport à la thématique donc d'aujourd'hui. Donc le sida existe donc depuis 30 ans. On parle de progrès thérapeutique extraordinaire, et ce bien sûr avec raison, mais où en est-on avec le progrès sociétal? Aujourd'hui, plus de 33 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, l'accès au traitement n'est pas équitable, qu'on soit en Afrique ou en Europe. En Belgique, au moins 20 000 personnes sont atteintes du virus. Chaque jour, le virus du sida contamine 3 personnes en plus, soit entre 1 000 et 1 200 nouveaux cas par an. La Belgique est un des pays européens qui compte le plus de cas diagnostiqués, avec en 2011 environ 10,7 cas pour 100 000 habitants, contre une moyenne européenne de 5,7. Donc c'est le double. Pour l'association AUSABE, le déni de la plupart des personnes face à cette maladie est lié à plusieurs facteurs. La méconnaissance, la peur, les tabous liés à la sexualité, que ce soit aux croyances ou religions, culture ou simplement la peur d'être stigmatisé, rejeté comme l'autre. La peur liée à l'immigration et aux personnes sans papiers qui se font expulser ne facilite pas le travail de prévention des associations ni celui du futur plan national de prévention de lutte contre le sida. En effet, encourager les gens à faire le dépistage, oui, mais que pouvons-nous leur offrir comme prise en charge par la suite? Oui, car la réalité d'aujourd'hui, une personne migrante vivant avec le VIH et qui reçoit une prise en charge globale depuis plusieurs années en Belgique, se voit tout simplement congédié vers son pays d'origine avec la mention « sa vie n'est pas en danger ». Une politique de migration inadéquate, plus le jugement de la société et de la communauté à laquelle la personne vivant avec le VIH appartient, est une conséquence directe sur les nouvelles contaminations. Car les personnes qui sont déjà fragilisées par la vie ne prendront pas le risque de découvrir qu'ils sont en plus malades, avec le risque de se voir expulsés. Dans la communauté arabe, ce rejet existe avec la dimension religieuse ou croyance religieuse qui juge les personnes vivant avec le VIH et qui ne les reconnaît pas comme faisant partie de leur groupe car ils ont transgressé les règles. J'y arriverai. Ces jugements et ces rejets augmentent la souffrance et l'isolement des personnes vivant avec le VIH, en plus de la dureté de la vie en général. Difficulté, fragilité à l'accès aux soins, la prise des traitements dans des conditions pas toujours faciles. Souvent les gens n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi se loger correctement. Réalité de vie pour la plupart d'entre eux, car leurs proches les ont soit rejetés, ou soit leur silence et leur indifférence est encore pire. Ce projet que nous vous présentons aujourd'hui est le résultat d'un travail d'un groupe de personnes vivant avec le VIH qui ont eu le courage de rompre ce silence. Ils nous ont livré leur récit de vie, leur intimité, leur expérience, leur joie et leur souffrance pour une part se libérer eux-mêmes de ce poids et d'autre part nous donner la possibilité de nous libérer nous-mêmes. Nous qui faisons partie de cette société, que le sida, de savoir que le sida n'a pas de frontières, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit belge, arabe ou africain, qu'on soit chrétien, musulman ou athée, quand le VIH frappe, il ne regarde pas qui on est. Vous faire comprendre que notre ennemi commun est le VIH et que nous pouvons rassembler nos forces pour le combattre et peut-être un jour nous arriverons aussi à parler de progrès sociétal au même titre que le progrès thérapeutique. Voilà, c'est une petite introduction que je voulais partager avec vous. avant de parler donc du travail d'AUSA. Je vais me lever.
Avant de présenter ce travail d'AUSA, j'aimerais quand même nommer les personnes qui ont fait partie de ce groupe et qui ont travaillé donc avec nous pour ce projet. Donc il s'agit de deux personnes qui sont présentes, Dani et Abdel. Il y a aussi Hussein. Donc Hussein, Angélique, Daniel, Stéphane et Jamal. Donc c'était vraiment un groupe très très chouette qui était là plusieurs vendredis donc pour faire le travail qu'on a réalisé. Et dont les résultats se retrouvent dans le petit carnet que vous avez reçu, mais qui sera évidemment bien encore complété avec, pour les animateurs, avec des jeux, enfin, beaucoup plus de matériaux pour faire des animations et travailler sur ces thématiques. Alors, je vais vous présenter AUSA pour ceux qui ne la connaissent pas, bien sûr. Donc nous avons plusieurs projets. Donc d'abord, il faut savoir que l'association AUSA est une association de femmes arabes, donc c'est une association laïque, indépendante de toute philosophie et de toute politique. Donc nous avons donc plusieurs objectifs. Donc le principal, évidemment, c'est de promouvoir les droits et l'amélioration de la condition des femmes originaires de tous les pays du monde arabe, qu'elles résident dans leur pays d'origine ou qu'elles résident ici en Belgique, qu'elles soient primo-arrivantes ou bien qu'elles soient issues de la première, voire des générations qui suivent. Alors, quand on parle des droits et de l'amélioration, bien évidemment, on se base sur les droits qui sont ici, sur les législations, mais aussi les législations qui sont dans les pays arabes et qui sont souvent discriminatoires pour les femmes. Et donc, on essaie évidemment de dénoncer et de faire en sorte que les choses s'améliorent. Et donc, en même temps, en travaillant sur les lois, etc., on essaie aussi de créer à travers ces femmes des ponts entre les différentes cultures. Il est bien entendu qu'en Belgique, on ne vit pas enfermé entre soi, mais on vit avec plusieurs communautés, plusieurs cultures, et donc on essaie justement de lier cette ouverture. Alors, les activités d'AUSA s'organisent autour de deux axes, donc la sensibilisation à l'égalité entre les genres et les droits des femmes, particulièrement dans celles originaires du monde arabe. On travaille beaucoup dans les groupes d'alphabétisation pour ce genre de situation. Et donc l'amélioration de l'image de la femme arabe, c'est-à-dire que la femme arabe, il y a une diversité, il n'y a pas qu'une image, il n'y a pas qu'un axe de la femme arabe, mais on représente une diversité et une richesse dont la société contribue aussi. Hein. Alors, donc les activités, donc ils visent quoi? Donc ils visent à encourager les femmes et les jeunes filles surtout à participer activement à tous les domaines donc, de la vie privée et publique, à s'affranchir de toute domination sociale, politique, économique ou religieuse. C'est-à-dire que souvent, on va utiliser la religion, la culture, la tradition pour maintenir les femmes dans la soumission. Et donc, c'est la raison pour laquelle on mène ce travail, c'est pour libérer les femmes de cette pression-là. On essaie aussi donc de casser les préjugés et les clichés donc qui existent donc, sur les femmes arabes et qui existent aussi donc, au sein de la communauté elle-même. C'est-à-dire qu'entre nous, on se juge entre nous. Donc là, il y a aussi un travail à faire pour casser ces préjugés et ces enfermements. Alors, bien sûr, promouvoir une solidarité entre les femmes au niveau local, régional et international. Donc, on a aussi donc, des projets de partenariat avec les pays d'origine. Donc, soit ça va contribuer à des projets, soit on invite les associations en Belgique pour travailler. Notamment dans le domaine de la santé, on a invité donc, deux années de suite des représentants marocains. Une année, c'était une dame séropositive qui avait créé son association à Casa Blanca. Et l'année passée, on a invité le docteur Chabache, qui est sexologue, qui est venu nous parler donc, de son travail. Et ça a vraiment été d'une grande richesse, comme quoi
les projets du Sud peuvent aussi nous servir ici et parfois ils sont beaucoup plus loin que nous parce que les tabous finalement on les retrouve beaucoup plus présents ici. Donc développer une compréhension des problèmes des femmes dans leur société respective et des relations entre les genres en particulier. Bien sûr, la relation entre les hommes et les femmes, ça reste aussi un point important, et donc pour lequel, évidemment, AUSA travaille beaucoup, mais toujours dans un sens positif. Hein. Donc on est féministe, mais on n'est pas contre les hommes, au contraire, on espère que les hommes rejoignent notre cause pour qu'on puisse justement avancer. Alors, quelques activités d'AUSA, donc toujours dans un cadre mixte et varié. Donc, il y a d'abord la chorale de chant arabe. Donc, on pense que la culture est aussi un as qui rapproche les gens. Hein, donc, parfois, même sans parole, il y a de la musique, bah, ça aide à se rapprocher. Mais c'est aussi une manière d'offrir aux autres notre richesse culturelle. Et donc la chorale est composée d'hommes et de femmes qui soient arabes ou non, qui parlent arabe ou non. Donc on met tout en œuvre pour que chacun puisse participer et nous découvrir de l'intérieur. Nous avons aussi des cours d'arabe pour adultes. On espère un jour offrir ces cours d'arabe aux enfants. Le jour où on aura un peu plus de moyens, je pense qu'on va mettre ça en place. Et donc ce sont des cours d'arabe moderne. Où la religion, bien sûr, n'a pas sa place. Hein, donc, c'est tout à fait laïque. Hein. Alors, nous avons aussi une bibliothèque qui est assez riche, qui est à votre disposition. Si vous voulez découvrir des auteurs arabes, par exemple, ou des auteurs féministes, etc. Donc, on a toute une bibliothèque à votre disposition. Alors, nous menons aussi des ateliers sur les droits des femmes, donc sur le féminisme, la sexualité et la victime, mais aussi les stéréotypes, les préjugés, etc. Tout ça pour essayer justement de décloisonner et de sortir un petit peu de tous ces problèmes-là pour aller de l'avant. Alors, les expositions photo, donc là vous avez un exemple d'une exposition photo qui est récente et qui est toujours, que vous pouvez toujours visiter. Et donc, ça c'était par rapport donc, aux révolutions du monde arabe. C'est-à-dire qu'AUSA, elle aimerait bien qu'une fois la révolution terminée, que les femmes ne retournent pas à leur cuisine et qu'on les oublie, mais qu'elles restent des témoins clés, des témoins privilégiés dans la lutte. De la liberté, de l'indépendance et de la démocratie. Donc c'est une façon pour nous d'aider donc, ces femmes qui sont dans ces pays en révolution actuelle. Donc les rencontres d'AUSA, bien sûr, littéraires, etc. Donc on a organisé pas mal de rencontres littéraires dans les cafés. Donc les cafés, vous savez qu'AUSA organise des rencontres dans les cafés, mais les cafés où il n'y a que des hommes. Et donc, pour nous, c'est une façon d'occuper l'espace public, mais aussi de dire qu'il n'y a aucune raison qu'une femme ne puisse pas aller dans un café, prendre son thé, son verre, etc. Et donc, depuis quelques années, on profite de cette occasion pour faire vraiment des conférences littéraires, que ce soit avec des femmes, que ce soit avec des hommes. Donc, nous avons Ali qui est féministe et qui a rejoint la AUSA il n'y a pas longtemps, qui a fait donc une conférence dernièrement et qui s'est vraiment très très bien passé. Donc il y a plein d'activités, je ne vais pas trop m'étendre sur ces activités, il suffit de voir dans le site pour retrouver en détail l'activité qui vous parle le mieux. Alors, donc nous avons été reconnus éducation permanente l'année passée, donc on a un petit budget, mais c'est pas encore tout à fait ça, mais en fait le but c'est de créer 10 outils pédagogiques par an, donc ça c'est nos objectifs. Et donc ces outils, ben voilà, donc ça intéresse donc soit aux droits de la femme, le féminisme, les questions de genre, etc. Donc on a déjà créé pas mal d'outils. Et dans le domaine de la santé, il y a également aussi quelques outils, notamment le premier qui était l'éducation affective et sexuelle. Donc c'est un gros coffret qui présente plusieurs thématiques dans l'anatomie, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, de parler des IST, du SIDA, etc. Le public qu'on touchait, qui était les publics pas scolarisés ou très peu scolarisés, n'avait aucune notion de l'anatomie. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre comment est-ce qu'on pouvait attraper le SIDA, par exemple, par la relation sexuelle. Donc, c'était pas très, très clair. Et donc, on a développé tout un outil, justement, où on dévoile l'anatomie de l'homme, de la femme, etc. Et alors, on avance petit à petit pour expliquer les IST, etc. Et dans ce même outil, il y a un axe aussi sur le genre, hein, comment la communication dans un couple, etc. Donc, le but de ce matériel, donc, c'est d'encourager les personnes originaires du monde arabe à s'informer plus et faire ainsi évoluer leur vision de la sexualité, briser les tabous, le silence et les préjugés qui entourent la sexualité au sein de la communauté. Donc, on a fait le constat que la manière dont la prévention est organisée en communauté française ne tenait pas compte des spécificités arabo-musulmanes, en tous les cas, et qu'il y avait en fait des priorités. Et donc, une des priorités pour la communauté française, c'était d'abord de s'adresser à un public subsaharien, puisque là, la communauté est beaucoup plus touchée, etc. Et donc, il était important de mettre les moyens pour cette communauté. Et donc, toutes les autres communautés se retrouvaient dans la prévention générale, qui n'était pas adapté à notre communauté à nous, puisqu'il faut une approche spécifique, il y a la tradition qui est différente, etc. Et donc, il y a un langage différent à apporter. Et donc, c'est pour ça qu'Arstab s'est appelé, à ce travail ici, pour cette communauté. Alors, maintenant, je vais vous parler de notre projet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, ce projet a été soutenu par la Subformel. Donc, c'est grâce à eux qu'on a pu mettre ce projet en place. Et donc, je vous explique un petit peu les différentes phases et la réalisation. Donc, plusieurs rencontres, débats avec des personnes vivant le VIH issues de tout horizon. Donc, on n'a pas voulu privilégier une rencontre rien qu'avec des personnes arabes, mais on a voulu vraiment travailler avec la réalité belge, parce que voilà, donc ici, on est une société multiculturelle. Les personnes vivant du VIH vivent la même chose, qu'ils soient africains, blancs, femmes, hommes, etc. Et donc, on a voulu vraiment avoir un récit des différentes cultures, des différentes personnes. Donc voilà, donc le catalogue que vous avez, donc voilà, il y a les extraits des vécus. Voilà. Alors, l'outil n'est pas terminé, donc ça nous prendra un petit peu plus de temps, parce que le matériel qui a été récolté est tellement riche que ça va nous demander un peu plus de temps pour compléter donc l'outil pédagogique. Il y aura donc des jeux, des fiches d'animation, etc. Pour la conférence, voilà, où on parle aujourd'hui. Et donc, on espère évidemment que cet outil va être un outil qui va pouvoir aider les associations et toute personne qui a envie de travailler avec cette thématique-là, de l'utiliser. Et nous, on est là pour former toute personne qui désire utiliser cet outil à l'utiliser, bien sûr, comme tous les autres outils d'ailleurs. Alors, donc voilà ce que je disais, donc on voulait montrer les points qu'on a vécu au-delà des différences socio-culturelles et religieuses, comme l'acceptation de la maladie, les difficultés avec les proches et la famille, interpeller, partager et démontrer que peu importe les origines socio-culturelles, l'orientation sexuelle, la religion, nous sommes et nous restons donc humains, et mettre en évidence ce qui nous lie par une approche positive. Informer, donc il y a encore beaucoup de méconnaissances, clichés et d'appréhensions envers la maladie et envers les séropositifs qui sont à combattre dans différents milieux, dans les écoles, dans les milieux médicaux, etc. etc. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'on ne peut pas parler de progrès sociétal, c'est que justement, il y a encore vraiment encore dans les tabous, dans la non-acceptation, etc. Et peu importe finalement qui on est et d'où on vient, on subit en tous les cas tous la même chose. Alors, le but aussi, donc, c'est de promouvoir les droits des personnes vivant avec le VIH, dénoncer les comportements discriminatoires et casser donc les préjugés. Écouter et comprendre les vécus des personnes séropositives sans jugement, ayant pour parler et briser donc les tabous. Alors, compléter les moyens de sensibilisation des associations de terrain par des formations aux outils donc, qui sont spécifiques. Donc, effectivement, dans les associations, on se rend compte qu'on ne parle pas suffisamment de la santé et pas suffisamment justement de ce problème de la sexualité, des IST, etc. Parce que chaque association dit que la mon public n'est pas concernée, hein, soit parce qu'il est musulman, soit parce que c'est des femmes qui sont mariées, etc. Et donc, on estime encore aujourd'hui que ce n'est pas nécessaire d'organiser des séances de prévention. Alors, l'approche qu'on utilise, donc c'est une approche continue et intégrée. La sensibilisation et l'action d'AMSA continuent et se complètent par d'autres de ces outils et réalisations. Donc, voilà, donc, ce sont les coffrets, ce sont les animations, les formations, les conférences, etc. Donc, on utilise tout ce qui est possible d'imaginer pour atteindre nos objectifs. Alors, l'idée aussi, c'est de travailler de façon à ce qu'on puisse ressentir et se mettre dans la peau d'une personne vivant avec le VIH, donc selon le genre, les origines socioculturelles, religieuses, etc., pour la comprendre et pour l'entendre déjà, c'est déjà entendre, pour pouvoir faire un petit peu de chemin donc avec elle. Alors, l'approche culturelle du public originaire du monde arabe ou pas scolarisé est présente, donc présente plusieurs vulnérabilités, donc que ce soit la langue, la représentation religieuse, traditionnelle ou le contrôle socio-communautaire. Donc ça, c'est vraiment un problème auquel on est confronté très très fort, c'est le contrôle socio-communautaire, c'est-à-dire que même si une personne a envie de s'affranchir de ça, eh ben, elle n'y arrive pas parce que le voisinage, la communauté, etc., elle a un rapport tellement fort qu'on n'arrive pas toujours à s'affranchir. Et donc ça c'est aussi un travail, et c'est un travail qu'on fait par l'autocritique aussi, hein, parce qu'on ne peut pas... chez AMSA, on ne dit pas que c'est toujours la faute des autres, mais c'est aussi la faute, enfin, notre faute aussi, si les choses n'avancent pas, n'évoluent pas. Et donc, on essaie de travailler cet aspect-là aussi. Donc, voilà, donc l'approche positive, sociale et participative. Parler du VIH-SIDA sans stigmatiser et pour dépasser le côté dramatique et le regard strictement scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, on croit toujours que parce qu'on est séropositif, on ne va pas vivre, etc. Et donc, ça fait peur, et ce qui fait peur, eh bien, automatiquement, on met de la distance avec. Alors, donc l'idée de partir du vécu des personnes vivant avec le VIH, donc, qui sont mieux placées finalement pour en parler, croire en leur capacité à poser un regard critique sur les différents sujets abordés, rencontrer un cadre de référence alternatif. Donc c'est clair qu'on peut faire beaucoup de choses, mais je pense que les personnes expertes par rapport à cette thématique-là, c'est les personnes qui vivent avec la maladie au quotidien. Et donc ils peuvent aussi nous dire quels sont vraiment leurs besoins. Donc on ne va pas venir avec des idées extraterrestres, mais vraiment partir des besoins pour arriver finalement à avancer. Alors, donc, l'outil pédagogique, eh bien, donc, il sera complété par le livret d'animateurs avec quelques apports informatifs et des ressources spécifiques. Le carnet de récits que vous avez reçu. Donc, les fiches pédagogiques avec une dizaine d'animations. Fiches d'activité thématique, étiquettes de parole, fiches d'interview, etc. Et donc, comme tous nos outils, je veux dire, nous, on donne une base d'animation. Rien n'empêche l'association ou la personne de compléter aussi par rapport à sa réalité aussi, à la réalité donc de son milieu. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'on peut partir de nos outils même qui sont plus pour la communauté arabe, je dirais, mais ça peut aussi être travaillé avec une communauté maintenant subsaharienne, belge, avec des jeunes, des adultes, etc. Donc c'est facilement adaptable et c'est ça qui est très chouette. Donc alors ici on parle de la religion musulmane, mais si on parle avec des femmes congolaises par exemple, alors on va parler de la religion avec protestantes ou catholiques, etc. Donc il suffit simplement de changer donc, l'aspect qu'on voudrait travailler. Alors, donc les perspectives évidemment, donc ce serait des animations dans les associations et les institutions qui pourraient organiser donc des ateliers sur les problématiques de santé sexuelle et affective. Donc on a beaucoup travaillé sur la santé sexuelle et affective, maintenant on aimerait vraiment travailler par rapport à la condition et par rapport au vécu des personnes qui vivent avec le VIH. Je pense que la prévention, on en a fait suffisamment. Nous, on aimerait bien dépasser ça et vraiment que le public intègre aussi de façon tout à fait normale les personnes qui vivent avec le VIH et qui changent en fait le regard. C'est vraiment notre ambition. Donc pour ça, donc, on propose aussi de former les formateurs parce qu'à OSA, on n'est pas beaucoup donc, à mener ce travail. Et donc notre but, c'est de former les gens pour que le projet puisse prendre l'ampleur et continuer dans le temps. Donc diffuser évidemment très largement le catalogue de récits de vie et promouvoir l'outil dans les associations et dans les structures adéquates. Voilà, je pense que j'ai assez parlé du projet. J'espère que j'étais claire et pas trop longue surtout. Donc si vous avez des questions, voilà, on peut en parler. Je ne sais pas combien de temps on a maintenant. Parce que...
Mais ça peut dépasser un petit peu les 20 minutes.
Oui, pardon. C'est pas
grave. Donc si quelqu'un qui a des questions... J'ai juste pas entendu en quoi consisterait la formation
Donc la formation des formateurs, donc il y a plusieurs axes. Hein. Il y a d'abord la formation à l'approche culturelle pour les personnes du monde arabe, mais aussi à l'utilisation de l'outil. Parce que l'outil il est fabriqué, mais il faut aussi savoir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Et donc c'est pour former les personnes à ça.
Oui, c'est
c'était la même question.
Ah, oui.
Alors à ça, je voulais savoir les personnes qui pourraient être formées. Est-ce qu'on a vu là-dedans, par exemple, des professeurs ou des gestions urbaines pourraient se faire? Bien, vous visez plutôt des professionnels du monde associatif, voilà.
Non, s'il y a des professeurs, donc c'est ouvert à tout le monde, hein. Et donc s'il y a des professeurs, bien sûr que ça nous intéresse très très fort, puisqu'on voudrait toucher aussi les jeunes. Donc non, c'est vraiment ouvert à tout le monde, que ce soit les associations ou l'enseignement. Donc voilà, donc plus il y a de monde, et plus je pense pour nous c'est bien.
Je sais pas si
Moi, c'est juste pour demander si vous interveniez dans l'association directement. En fait, je travaille avec des femmes du mouvement, justement, ça touche beaucoup à mes sujets. Moi, j'anime l'activité sportive pour le mouvement pour les femmes. Donc, et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'elles étaient là aujourd'hui, mais malheureusement pas. Donc voilà, si c'est possible de venir ou sensibiliser ou faire une animation dans l'association, si c'est possible, ben, moi je ferai tout le nécessaire pour avoir un jour puissent intervenir si possible.
Oui, oui. Donc nous organisons des animations dans les associations. C'est avec plaisir qu'on viendra au CTL, hein, c'est ça, on travaille au CTL. Oui, oui, tout à fait. Donc il suffit de le demander. Donc vous téléphonez à Anna et à Fatma et voir un petit peu les jours qui vous conviennent et ce qui nous convient. Et bien sûr, voilà, c'est un de notre travail aussi. Hein.
Je me présente, j'ai oublié en fait de présenter Khadija juste avant l'intervention, je suis désolée en fait. Donc, je vais présenter Abdelhamid Kaddous qui est militant impliqué dans la sensibilisation auprès des jeunes et des communautés arabes. Donc je te laisse la parole.
Merci. Bonjour. Donc voilà, je ne vais pas revenir évidemment sur tout ce que Khadija a dit au niveau du projet. Je vais plutôt vous parler donc de moi, de ce qui m'a intéressé dans ce projet et de ce pourquoi j'ai décidé d'y participer et de ce pourquoi il faut rester mobilisé. Donc, voilà, essayer de répondre déjà à ces trois questions, c'est déjà pas mal. Donc, je vais vous parler un petit peu de moi-même pour me présenter. Donc, je m'appelle Abdel, j'ai 50 ans. Je suis séropositif depuis le début de l'infection. En fait, dès qu'on l'a découvert en 83, j'ai été infecté donc dans les années 84-85. Voilà, et. Donc, comme vous le savez tous, dans un premier temps, il n'y avait évidemment pas de traitement. Donc, pendant une bonne dizaine d'années, il n'y avait rien. Tout le monde cherchait, toutes les équipes partout, etc. Voilà, donc, les trithérapies fassent leur apparition donc, dans les années 96, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. J'ai eu un parcours chaotique très difficile avec cette maladie qui m'a rien épargné, sur le plan médical en tout cas. Et jusqu'à l'apparition donc des traitements, si vous voulez. J'étais asymptomatique, c'est un terme un petit peu scabreux qu'utilisent les médecins, quoi, hein, pour dire qu'on n'a pas de symptômes, quoi, qu'on voit pas forcément qu'on est malade et on ressent rien, il se passe rien, quoi, en gros. Et donc, durant toute cette période, je ne me sentais pas vraiment honnêtement concerné. J'avais ça, et puis après, quoi, en fait. C'est un petit peu comme ça que je voyais ça à ce moment-là. Mais ça va changer très très vite, parce que je vais évidemment aller un petit peu plus mal un petit peu plus tard, et je vais être hospitalisé dans un état quand même relativement critique, et puis donc on prendra en charge, et voilà. Et qu'un cas jusqu'à l'apparition des traitements qui ont nettement amélioré donc mon état de santé. Et ça n'a fait que s'améliorer depuis, je m'en réjouis. Donc J'ai deux enfants, je veux préciser, donc parce que c'est très très important. Beaucoup de gens pensent que on est séropositif, c'est fini, on va mourir demain, ça ne sert à rien, les enfants, qui va les élever en gros, C'est pas le choix que j'ai fait, donc à l'époque, on savait peu de choses sur cette maladie, et donc quand il s'agissait de le dire à ma compagne d'alors, qui est toujours ma compagne aujourd'hui, à la mère de mes enfants, j'avais pas trop difficile à lui dire. Je dis j'ai un truc dans le sang que le médecin a vu, et je sais pas trop ce que c'est honnêtement, et il n'y a pas trop d'informations dessus. Ce que je sais, c'est que c'est grave, qu'on peut en mourir, que les gens en meurent. On a découvert ça aux États-Unis, en France, et voilà. Bon, ma compagne, on s'en fout. voilà, c'est quoi ton truc, c'est quoi ton truc dans le sang? Je dis, bah, écoute, j'en sais rien, c'est un truc dans le sang, et apparemment ça te transmet, et donc tu, voilà, c'est le risque de te contaminer en gros, et nos enfants aussi risquent d'être contaminés, mais il faut faire un choix. Elle a fait son choix, elle a décidé donc de rester avec moi, c'est comme ça que je suis toujours avec elle, et j'ai avec elle trois enfants, dont un est décédé donc en 2007. Et donc, pendant tout un temps, donc, je sentais pas le besoin d'aller sur le terrain, de voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, jusqu'à la naissance vraiment de mon troisième enfant qui est décédé en 2007. J'avais envie alors à ce moment-là, j'avais envie de voir qu'est-ce qui se faisait autour du HIV en prévention, comment est-ce qu'on prévenait, comment est-ce qu'on se faisait la prévention, qui s'en occupait, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter différentes associations qui travaillent sur la prévention, etc. Et donc j'y ai travaillé longtemps comme bénévole, j'étais j'étais surtout en recherche. Donc je cherchais, je ne sais pas quoi, mais je cherchais, je n'étais pas satisfait de ma vie, de moi-même, et je cherchais. Donc je me demandais en fait si tous ceux qui avaient le virus comme moi, ressentait ça quoi, et j'avais besoin de rencontrer d'autres personnes qui étaient séropositives comme moi pour vérifier si oui ou non elles étaient tout aussi inquiètes que moi et qu'elles étaient, voilà. Et donc j'ai rencontré effectivement à travers différentes associations, entre autres avec Kadja d'ailleurs, et on a rencontré beaucoup de personnes. Il faut dire que l'association travaillait beaucoup avec les séropositifs globalement, mais surtout avec les primo-arrivants, et qu'elle prenait en charge sur tous les plans, sur le plan social et socio-médical en fait. Donc j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens et beaucoup de vies différentes, et j'ai aussi rencontré beaucoup de souffrances, évidemment, beaucoup d'isolement, beaucoup d'inquiétudes. Les gens sont inquiets, quand ils ne savent pas, ils sont inquiets. Et si vous voulez, en les rencontrant, je me suis très vite rendu compte que j'étais pas là pour leur dire ah mais t'inquiète pas, ça va passer, ça va aller. Je me suis rendu compte qu'en fait les mots, si vous voulez, ne suffisent pas en fait. C'est pas des mots qu'il faut. C'est vraiment une présence en fait. Si vous êtes présent au moment où la personne est fragile, a besoin d'être rassurée. Le simple fait, par contre, que vous soyez à côté d'elle suffit pour la rassurer. Les mots, parfois, sont inutiles et parfois même vains. Ils n'ont pas d'impact, alors que votre présence, elle, a un impact. C'est ce que j'ai retenu, en tout cas, des différentes rencontres que j'ai pu avoir avec ces personnes. Et je vais vous parler maintenant de ce projet-ci et vous expliquer pourquoi il m'a intéressé plus particulièrement. Ce projet m'a intéressé parce que la finalité était d'en faire un outil pédagogique, autrement dit quelque chose qu'on va utiliser donc de manière massive, peut-être, je l'espère en tout cas, donc dans les associations, les écoles, les institutions, enfin les structures qui s'occupent et qui accueillent des personnes de tout horizon, de toute nationalité, et que ça servirait à quelque chose quoi en fait. C'est pour ça que ce projet m'a intéressé. Et j'ai senti aussi le besoin aussi de de parler, de dire, de raconter en fait mon histoire et qu'il en reste peut-être une trace et qu'on s'en serve en fait finalement pour en faire quelque chose de positif, là cette fois-ci au bon sens du mot, hein, sans jeu de mots. Et en rencontrant le groupe avec lequel j'ai travaillé, avec lequel on a travaillé pendant quelques semaines quand même, j'ai senti la même envie de parler, de partager ce vécu, parfois lourd, difficile. Mais quand on se sent écouté, qu'on se sent surtout pas seul à subir ça, donc du coup, ça nous facilite un petit peu ça nous facilite un petit peu la vie, quoi. Et donc, dans ce groupe, les personnes étaient, à mon avis, étaient toutes motivées pour aller jusqu'au bout de ce projet, parce que chacune des personnes avait ses propres raisons de venir dans ce groupe. Mais je pense que ce qui nous reliait ensemble, c'est vraiment de dire, voilà, nous on est sur... Parce que c'est vrai que, comme Rebecca disait tout à l'heure, généralement, ce sont toujours des experts, hein, qui traitent de ces questions, et c'est bien normal. Il faut que les experts nous expliquent ce que c'est, et nous donnent des informations scientifiques, médicales et tout ça, pour que on sache quand même vers où on va. Et ce qui était intéressant dans ce projet, c'est justement le fait qu'on part de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on part des récits des personnes qui vivent avec ce virus pour peut-être aboutir sur quelque chose qui serait donc ce projet pédagogique qui pourra être utilisé dans les différentes structures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà pourquoi ce projet m'a intéressé. Et il m'a intéressé aussi parce que donc il est porté par une association de femmes que je soutiens par ailleurs depuis longtemps, même si je ne suis pas membre d'AOSA, mais je soutiens toutes les initiatives que prend AOSA. Et ce projet m'a intéressé pour ces raisons-là. Je suis très très content d'y avoir participé. Et j'espère qu'il servira vraiment, donc que les associations, les animateurs, etc., qui pourront s'en saisir, pourront vraiment en faire quelque chose et transmettre donc ce qu'on a voulu nous-mêmes transmettre à travers ces récits de vie, même s'ils sont incomplets, même si ce sont que des citations, même si on a en tout cas une vue globale. Je veux dire par là que, en fait, finalement, dans toutes les souffrances et les difficultés qui ont été les miennes, tantôt médicales, tantôt psychologiques, tantôt psychiques et tout ce que vous voulez, enfin, des difficultés, on est en difficulté, ça il n'y a pas de doute, à un moment on arrive à aller au-delà, on arrive à dépasser ça. Et c'est à mettre en lien avec le choix que j'ai fait au tout début, en fait, non pas d'ignorer la maladie, de faire semblant qu'elle n'est pas là, mais de dire, eh bien, il y a la maladie, mais il y a ma vie aussi. Et donc, moi, je continue ma vie. De toute façon, je mourrai bien un jour, que ce soit de ça ou d'autre chose, je mourrai bien un jour. Donc, autant continuer ma vie comme j'avais envie de la faire. Et donc, j'ai continué ma vie comme j'ai eu envie de la faire. Je me suis mis donc avec ma compagne et j'ai eu des enfants normalement, comme je l'aurais fait si je n'avais pas cette maladie. Et donc, c'est pour clôturer un petit peu le chapitre par rapport au projet proprement parler. Je voulais aussi vous dire deux, trois petits mots par rapport à la prévention. Dans le milieu maghrébin, ou arabophone en tout cas, ou arabo-musulman, appelez ça comme vous voulez, mais donc on voit bien de qui on parle, donc les maghrébins, les musulmans. Je vais vous dire pourquoi, parce que l'islam a un vrai problème avec trois choses. Avec la femme, l'homosexualité et le VIH. Donc à défaut d'avoir des réponses à fournir ou un positionnement à se positionner par rapport à ce problème de, du VIH, de la femme, hein, eh bien, on ne se prononce pas, on ne dit rien. En tout cas, moi, je n'entends rien, je ne vois rien qui émane de la communauté arabophone ou maghrébine. Je ne vois absolument rien. Et c'est tellement tabou et tellement fort. Il y a... Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, et je terminerai très rapidement là-dessus, je voudrais enfin que le leader, qu'il soit religieux, qu'il soit le leader intellectuel et culturel de la communauté arabophone ou arabo-musulmane, les leaders religieux, c'est très important qu'ils prennent la parole et qu'ils assument, qu'ils prennent responsabilité et qu'ils assument. Mais bien entendu, pour qu'ils puissent expliquer aux musulmans qui fréquentent leur mosquée, par exemple, il faudrait qu'eux-mêmes soient formés et informés. Ça semble évident. Donc voilà, je ne suis pas certain que tous les imams qui œuvrent dans les mosquées soient formés effectivement pour vous parler du HIV, de ses conséquences, etc., etc. Et surtout d'expliquer donc aux musulmans qui les écoutent que personne n'a le droit de juger l'autre parce qu'il est séropositif. Parce qu'en fait, finalement, c'est quoi être séropositif? C'est être malade. C'est être touché par un virus, c'est tout à fait clair. Hors du virus, il y en a une quantité incroyable. Voilà, les médecins peuvent très bien vous expliquer ça. Il y a, je sais pas comment... Donc, ce virus fait partie des autres virus, mais il a une particularité, c'est que il se transmet d'une manière... Voilà. Qui pose problème aux religions et pas seulement à l'islam. On a vu ça avec un prêtre protestant, chez les catholiques aussi, ça pose des problèmes, il n'y a pas de doute. Et puis alors il y a l'homosexualité aussi. Voilà. Donc pour finir, on ne sait plus très bien. Et alors on mélange tout, du coup ça arrange bien tout le monde hein, de tout mélanger. Et donc dans la communauté musulmane, de façon superficielle, on dit « Ah mais le VIH, c'est pas une priorité finalement pour nous, hein, ça nous regarde pas trop, c'est un problème qui vient de chez les occidentaux, c'est un problème qu'on a pointé chez les homos, les homosexuels, chez les prostituées, chez les drogués, etc. Mais pas chez les musulmans. » Pas chez les musulmans. Or, nous savons très bien, nous, qui travaillons plus ou moins avec eux, qui les approchons, que des musulmans infectés par le virus, il y en a. Donc, ce que je veux qu'ils se mettent en place, c'est vraiment une prise de conscience de cette communauté arabo-musulmane, que ce problème existe bel et bien dans notre communauté, qu'il est plus que temps de le prendre en charge et surtout d'assumer ses responsabilités, que chacun prenne ses responsabilités, tantôt les autorités religieuses, tantôt l'élite intellectuelle et culturelle, je pense aux philosophes, aux écrivains, aux poètes, aux peintres, ce que vous voudrez, qui sont ici depuis de nombreuses années. Et qui, pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des personnes qui sont des référents. Ce sont des personnes que les gens, que la masse silencieuse écoute. Vous n'êtes pas sans savoir que les imams sont très écoutés le vendredi à la mosquée. Donc c'est clair que si on peut faire passer un message, c'est le meilleur endroit. Donc voilà, essayons d'abord de convaincre les imams pour que les imams arrivent à convaincre leurs propres ouailles, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc l'élite intellectuelle aussi, il faut absolument qu'elle se positionne, qu'elle prenne position, parce qu'effectivement, elle est écoutée, elle est lue, elle est présente parfois. Voilà. Et j'aimerais bien aussi que les médias se saisissent de cette... parce qu'hélas, malheureusement, on est toujours préoccupé par les guerres, les bombes qui sautent partout. Effectivement, c'est la réalité, il ne faut pas la nier. Je ne suis pas ici pour dire, voilà, on oublie tout, il n'y a plus que le mec. Ce n'est pas ça du tout. Mais je trouve que, compte tenu de la gravité quand même de la situation, lequel j'ai rappelé tout à l'heure, on a quand même 3 infections par jour, ici, en Belgique. Ça fait, c'est vraiment beaucoup. On va se retrouver dans peu de temps, si on ne fait rien, si on ne bouge pas, voilà, avec un nombre incalculable de personnes séropositives, et ça fera qu'augmenter donc les souffrances des gens, et puis le coût pour la communauté, etc. Quoi. Donc, voilà. Je voudrais que chacun prenne sa responsabilité, assume, prenne la parole, et arrête de pointer les séropositifs arabes, musulmans, comme étant des malfaisants. Les musulmans disent, hein, superficiellement, s'ils ont ça, c'est parce qu'ils se sont mal comportés, et après tout, ils n'ont que ce qu'ils méritent, en fait, finalement. Ils se sont mal comportés, soit parce qu'ils ont été... c'est des homos, et les homos, c'est un problème pour la religion, pour toute la religion, d'ailleurs, hein, c'est pas seulement vrai pour les seuls. Voilà. Tant pis pour eux. Et si c'est pas... s'ils sont pas homosexuels, c'est qu'ils étaient drogués, prostitués, etc. Toutes des choses qui sont pas compatibles avec aucune des religions. Ça, c'est tout à fait sûr. C'est, voilà. Et donc, le travail pour nous dans la communauté maghrébine, je parle de la communauté maghrébine parce qu'en fait, je pense que si vous voulez, dans la prévention telle qu'elle existe aujourd'hui de façon globale et générale, les Maghrébins sont inclus dans cette prévention. Or, je pense, je ne suis pas le seul à penser que, si vous voulez, la communauté maghrébine se distingue un petit peu par quelques spécificités. Il y a des codes et des us et des manières de penser la vie. Voilà. Ne serait-ce que pour ça, si on devait faire une prévention, il faut vraiment cibler ce public-là, maghrébin, arabophone, parce qu'il a une autre approche de la vie qui se différencie quelque peu de celle qu'aurait un Africain, par exemple, nos Américains subsahariens, qui ne pensent pas forcément de la même manière, qui n'ont pas forcément la même religion, etc. etc. Et donc, voilà, c'est pour cette raison-là que je pense qu'effectivement, dans cette prévention globale et générale, il est temps aujourd'hui de faire une prévention plus ciblée, avec des spécificités. Effectivement, on sait qu'il y a des spécificités tantôt chez nos amis d'Afrique subsaharienne, chez les Maghrébins qui ont d'autres spécificités, un autre mode de vie, une autre manière de voir, de concevoir la vie. Et puis les Européens, nos amis les Européens que nous connaissons, que nous fréquentons tous les jours, qui eux aussi donc voient les choses encore d'une autre manière. Donc vous voyez que on est tous très très différents et qu'il y a à ce niveau-là, en tout cas au niveau de la prévention, de mon point de vue, il y a vraiment il faut faire des nuances et il faut cibler le public qu'on veut toucher. Donc que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, et vraiment dans la communauté musulmane, il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut y aller, les moyens, tout ça, il faut aller chercher les moyens, il faut faire ce travail, parce que si on ne le fait pas, eh bien on va se retrouver dans quelques temps, avec encore plus de gens, et j'insiste beaucoup, il y a beaucoup de primo-arrivants qui arrivent, et ceux-là, ils ne savent pas, nous non plus, s'ils sont infectés ou pas, donc ils peuvent très facilement... eux-mêmes être contaminants et donc infecter les autres personnes, etc. Donc, autant les prendre en charge tout de suite, si j'allais dire, et de façon spécifique, avec un langage approprié, parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément le français. Donc, il faut peut-être parfois leur parler en arabe, leur expliquer en arabe, tantôt en arabe, tantôt en français, en fonction de ce qu'ils peuvent comprendre ou pas. Et c'est loin d'être facile, je vous le dis, c'est pas simple. Et pour finir, donc voilà, je dirais simplement que que depuis 30 ans que je vis avec cette maladie, en fait, c'est pas la maladie qui me pose problème, c'est les gens. Vous voyez, c'est C'est curieux, étrange peut-être là, mais pour le coup, c'est pas vraiment la maladie qui me pose problème, parce que la maladie, les médecins s'en occupent très très bien, voilà, ils nous prennent en charge au sens large du mot, donc quel que soit le problème que vous avez, voilà, on vous suit, on vous prend en charge jusqu'à ce que vous alliez mieux, jusqu'à ce qu'on vous remette sur pied. Voilà. Donc sur le plan médical, purement médical, il n'y a pas de souci. Par contre, sur le plan social, alors là, il y a des vrais problèmes, parce que donc c'est non plus le rejet qui est très très difficile à vivre. Je dirais pour la communauté qui est la nôtre, c'est carrément le déni. Vous voyez, donc c'est, on est vraiment dans cette démarche-là. Et je voudrais que ce déni cesse et que l'on dise enfin, on commence à travailler. Même si on doit commencer au tout début, donc c'est à zéro, et bien on commence à zéro, mais on commence. Je vous remercie.
Je m'intéresse à la question depuis toujours, parce que voilà, je crois que ma génération, dans les années 80, on en a beaucoup parlé quand j'étais à l'école secondaire. Donc, c'est un sujet avec lequel j'ai grandi. Mais quand on parle de l'isolement, où on insiste beaucoup sur le fait que c'est vraiment une souffrance principale par rapport aux personnes qui sont contaminées, ben moi j'ai envie de dire que dans mon entourage proche, en fait, je ne connais pas de personne qui est CD1, de la même manière que je ne suis pas amie avec des gens. Du fait de leur couleur de peau, de leur appartenance religieuse ou pas, je me suis toujours sentie un peu, comment je pourrais me sentir responsable de cet isolement si par ailleurs les personnes ne vont pas se découvrir à moi et me rencontrer en rue, me dire bonjour, je m'appelle un tel et j'ai le sida et que je pourrais être amie avec eux ou bien partager une activité, vous voyez. Parce que si chacun vit de manière isolée finalement, c'est où qu'on peut se rencontrer ?
Précisément, donc c'est tout l'enjeu en fait. C'est tout l'enjeu. Où est-ce qu'on peut se rencontrer ? Il ne manque pas d'endroit d'abord pour se rencontrer. Si vous voulez, en parlant des rencontres que vous venez d'évoquer, mais il est clair qu'il faut multiplier des espaces de rencontre. Hein ? Donc, si on veut répondre à votre question, en fait, comment est-ce qu'on fait pour se rencontrer, on fréquente une association où il y a des activités, forcément, donc où il y a un mouvement, où il y a des gens qui vont et qui viennent, des hommes et des femmes, voilà. Et on fait des rencontres, et puis voilà, et c'est comme ça qu'on peut. Mais, clairement, je suis d'accord avec vous, il manque peut-être des espaces de parole et d'expression. À mon avis, chacun peut lui-même être l'auteur d'un projet, créer un espace de rencontre et d'échange.
Mais ce que je veux dire pour préciser, c'est que ma gêne pourrait venir du fait que, disons qu'il y a une association qui fait des activités avec des personnes qui sont touchées par le VIH. Alors moi, je me vois mal à les sonner en n'étant pas directement moi touchée, juste pour avoir l'occasion de rencontrer, parce que vous n'êtes pas plus particulier que l'épicier du coin avec qui je converse, juste parce que je trouve sympathique. Vous voyez ?
Oui, tout à fait. Mais en fait, si vous voulez, votre question est très pertinente. C'est pas écrit ici que je suis séropositif. Si je vous l'avais dit, vous auriez du mal à l'imaginer. Mais donc, je suis séropositif. Et la raison pour laquelle les associations qui travaillent avec un public séropositif n'acceptent pas que les personnes séronégatives fassent partie donc de l'association est compréhensible, bien évidemment, parce que on instaure une confidentialité et on doit respecter cette confidentialité parce que comme on disait tout à l'heure, il existe un tel rejet et un tel mépris parfois donc de la personne séropositive qu'évidemment on ne va pas faire rentrer le loup dans la bergerie, quoi, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc, en amenant une personne séronégative, quand bien même elle est tout à fait bien intentionnée, hein, je veux dire, ça pose un problème aux personnes séropositives parce qu'elles n'ont pas la garantie que cette personne ne dira rien, ne révélera pas leur séropositivité, etc., etc. Et donc, et par souci de confidentialité aussi, donc pour préserver les personnes séropositives. Voilà la raison pour laquelle il n'y a pas de mélange entre les personnes séropositives et séronégatives. Et je suis d'accord avec vous qu'il est temps qu'on avance là-dessus, et il n'y a pas de raison que les rencontres ne se passent pas entre des personnes séropositives et des personnes séronégatives. Je crois même que ça enrichirait les uns et les autres.
Ok, j'ai une petite, un petit souci. Votre récit était tellement intéressant que ça nous a captivés.
Merci.
Mais nous sommes devant, dans une activité organisée par une association des femmes. Vous, vous êtes un homme. Je serais tenté de vous demander comment s'est fait la rencontre entre toi et l'association. Si ça fait suite un peu à ce que j'ai de dire, comment est-ce que la rencontre a eu lieu entre vous et l'association?
Mais, écoutez, je vais être honnête avec vous. La rencontre entre moi et l'association s'est faite à travers la dame que vous voyez ici, donc, avec laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Donc, que je connais depuis très très longtemps. Et notre combat commun a été très long. Et en gros, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît, qu'on milite ensemble dans différents domaines. Et évidemment, Khadija, les problèmes de la femme lui tiennent énormément à cœur, chose que je comprends parfaitement bien, et je la soutiens dans son action, parce que je suis convaincu que les femmes sont malmenées, pas seulement ici, très certainement dans nos pays d'origine, je pense au Maghreb, voilà. Et voilà, et donc elle a eu cette bonne idée de créer cette association, enfin, et de réunir des femmes autour d'elle pour aller de l'avant, pour proposer des choses, pour changer les choses. Et moi je suis de ceux qui, justement, sont pour changer les choses. Et notre rencontre s'est faite tout à fait naturellement. Je soutiens les actions qu'elle fait, elle soutient les actions que je fais, en fait on se soutient mutuellement, on a toujours progressé comme ça, après tout il n'y a pas de raison que ça change.
Oui, juste dernier mot pour Khadija. Est-ce que dans votre association, les hommes ont une place?
Bien sûr, il y a une grande place pour les hommes, mais les hommes féministes, hein. Pas tous les hommes, hein. Donc l'imam avec sa grande barbe qui veut rien savoir de la femme, bien sûr que non, mais tous les hommes bien sûr qui sont ouverts à l'émancipation de la femme, etc., bien sûr ils sont les bienvenus, et on le revendique aussi, hein. Donc c'est pas simplement qu'ils sont bienvenus, mais on demande qu'ils soient à nos côtés aussi, et donc pour nous c'était très important qu'Abdel accepte à travailler avec nous pour ce projet-là, parce que non seulement ça touche à une question qui est quand même très très délicate, qui est la sexualité, et le fait de partager ça entre nous, hommes, femmes, etc., ça donne aussi un appui supplémentaire pour le public qu'on vise. Hein, parce que c'est toujours une femme qui parle aux femmes ou un homme parle aux hommes, etc., ben, il n'y a pas de rencontre. Donc ici, le fait d'être justement mixte, eh bien, ça nous donne en tous les cas plus de force pour aller vers une mixité au niveau du public. Et donc c'est très important. Mais il y a de la place pour vous aussi, hein, André.
Voilà. Voilà, Abdel, on se connaît depuis 20 ans et je me souviens toujours de cette réunion où il y avait ta maman. Femme patouée, polardée. Je me dis comment c'est possible qu'une maman comme ça, que je connais toutes les mamans, la plupart ont fermé leur cœur et leur maison, et ta maman, elle était là, fière de son fils et fière de parler du parcours que tu as eu. En tout cas, pour ça, bravo parce que tu as trouvé les mots. Et la façon de l'approche et de ne pas laisser cet ennemi qui est la maladie briser oui, votre famille aussi. Mais alors, je peux te dire franchement que ce récit, moi étant bénévole dans les Marolles, je n'ai pas touché les chefs religieux, pas encore. Mais en tout cas, les mamans, je peux te dire franchement, si leur enfant se confie, eh ben, elles seront militantes pour défendre leur enfant et ne pas avoir honte de leur enfant et de le secourir jusqu'au bout. En tout cas, un grand merci.
Merci beaucoup. Mais je voudrais dire un petit mot pour quand même rendre hommage à ces moments, parce que c'est vrai ce que dit Fatima. Ma maman fait partie de donc, la génération de maman. Ma maman est illettrée, analphabète, et effectivement elle est tatouée voilà, sur le front, parce que c'est un signe d'appartenance à une tribu, et c'est comme ça qu'on reconnaissait donc les femmes grâce au tatouage qu'elles avaient sur la tête, qu'elles appartenaient tantôt à telle tribu, tantôt à l'autre tribu. Être analphabète ne veut pas dire être inculte. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle ne sait pas lire et écrire que n'a pas de culture. Elle avait sa propre culture, et j'ai eu beaucoup de chance en fait dans ma vie, et c'est pas vrai seulement pour ma maman, voilà, mais pour rendre hommage à sa mémoire, parce qu'elle nous a quittés, hélas, en 2010. Ma maman était une femme, a été pour moi une femme extraordinaire. Extraordinaire parce que elle a su me rassurer tout de suite. Et je pense, plus largement, que dans la communauté maghrébine, la réaction des parents, je pense que plus largement même, au-delà de la communauté maghrébine, plus largement, la maman a un réflexe de protection, en fait, vis-à-vis de son enfant. Quand un de ses enfants annonce quelque chose d'aussi difficile, une maladie grave, en l'occurrence le VIH, qu'elle ne connaissait pas du tout, évidemment, elle ne connaît pas ce que c'est le VIH, c'est parce que, voilà, donc, quand je lui explique que c'est une maladie qui est dans le sang, qu'on n'arrive pas à guérir, les médecins se cassent la tête avec, et puis ils trouvent pas... Elle est restée imperturbable, donc pour elle, c'était pas... c'est une maladie. Et donc, les médecins, forcément, finiront par trouver le remède. Donc, moi, j'ai pas de raison ni de pleurer, ni de m'apitoyer sur mon sort, ni de... Voilà. Il fallait que je reste debout, que je combatte, que je continue ce que j'ai continué à faire. C'est le, par exemple là que je suis là aujourd'hui. Je te remercie d'y avoir pensé, Fatima.
Alors maintenant, je vais
enfin
présenter Dani Kaniéva, désolée, c'était
un peu long, mais
c'est tout. Qui assure l'accompagnement et soutien social, psychologique et médical des personnes atteintes de VIH.
Bonjour tout le monde. Voilà, elle m'a déjà présenté. Je m'appelle Dani. Mais là, j'ai quoi, trois casquettes, hein, parce que non simplement que je m'occupe d'une association qui s'occupe des personnes séropo, je suis concernée moi-même directement. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans le programme d'Aoussa. Et je suis contaminée depuis 17 ans, parce que ma fille a 17 ans maintenant, donc la dernière. J'ai su que j'étais séropo quand j'étais enceinte de ma dernière fille. Et quand on t'annonce que tu es séropo, surtout que tu es marié, c'est la fin du monde. Et quand on appelle le mari qui vous dit que c'est pas vrai, parce que moi j'étais en Suisse et il était resté au fait en Afrique, donc je passe les détails, hein, parce que c'est compliqué. C'est pas vrai, parce que le médecin se trompe, c'est du n'importe quoi. Et on essaie de voir un peu en arrière, qu'est-ce qu'on a pu faire, est-ce qu'il y a eu une transfusion, est-ce qu'à un moment, parce qu'on ne savait pas comment on devait attraper le sida, est-ce que c'est les moustiques, est-ce que c'est les mouches, est-ce que c'est l'eau, est-ce que c'est quelqu'un que tu as salué, est-ce que... Il y a tellement des choses qui viennent en fait en même temps, parce que je te dis, si ce n'est pas lui et que je me retrouve dans cette situation, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Paix à son âme, parce que mon mari est mort, ça fait 15 ans cette année. Je me suis retrouvée seule avec les enfants, donc j'en ai élevé plusieurs parce que mon mari avait deux enfants aussi. Et parmi les enfants, malheureusement, il y a un enfant qui est séropo. Elles sont jumelles. Sa soeur n'est pas contaminée, mais elle, oui. Donc, Ça, c'est encore notre problème parce que c'est compliqué. Je ne suis pas scientifique, les médecins peuvent l'expliquer. Donc, celle qui est sortie avant a été contaminée, celle qui est sortie après n'a pas été contaminée. Bon, la petite, ça va, elle est suivie, elle est ici avec moi, donc ça va, elle prend bien ses traitements. Voilà un peu la petite histoire. Pourquoi j'ai créé au fait l'association? Parce que je me suis rendu compte qu'autour de la mort de mon mari, il y a eu beaucoup de non simplement des non-dits et puis beaucoup de méchanceté et beaucoup de mensonges. Chacun voulait dire il est mort du sida, l'autre non c'est un cancer, l'autre non c'est le diabète. En fait, chacun voulait donner au fait un nom à la mort. On meurt toujours de quelque chose, peu importe quoi. Et je me suis retrouvé en Belgique et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'on est une grande famille, on est une famille connue sur le plan politique, une grande famille chez nous. Et chaque fois, on te pointe du doigt, chaque fois, on parle de toi. Il y avait tellement de choses. À un moment donné, quand on m'a demandé, ton mari est mort de quoi? Je me suis retrouvée dans la position des personnes qui mentaient aussi. Donc, ça veut dire, tout sauf le sida. Parce que ça faisait peur, parce que c'était une maladie de la honte, parce qu'on allait me questionner, parce qu'on allait me rejeter et que je n'allais plus avoir d'amis. Quelques temps après, je me suis dit, maintenant ça suffit. Ça suffit parce que je ne dois pas vivre pour les autres, je dois vivre pour moi. J'ai des enfants, j'ai ma propre vie, j'ai ma famille. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime par procuration. Je n'ai pas envie qu'on m'aime par pitié. Je n'ai pas envie qu'on m'aime parce que j'ai le sida. Je suis Dani, je resterai Dani, peu importe la maladie que je peux porter. Je crois que le premier pas que je devais faire, c'est d'abord d'assumer moi-même la séropositivité, parce que c'est d'abord le plus dur. Parce qu'en 96, moi j'ai eu la chance que le traitement avait commencé, donc j'ai pris le traitement pour que je puisse accoucher. J'ai eu une césarienne, donc l'enfant était bien portant, il y a eu le suivi et tout. Et je me suis dit, si je continue en fait à écouter les gens. J'ai eu des moments que j'ai arrêté le traitement. Parce que quand tu sors avec des amis pour aller au restaurant et que dans le temps on ne prenait pas le médicament comme je le prends aujourd'hui une fois par jour, il fallait inventer quelque chose ou bien aller aux toilettes pour aller prendre le médicament ou ne pas les prendre parce que le sac pouvait tomber. Il y avait toujours quelque chose qu'on devait faire et il y avait des jours que je sautais. Donc je ne prenais pas mon traitement. Et c'était vraiment... finalement un cercle vicieux qu'il fallait que j'arrête moi-même. Parce que c'est vrai que dans ce combat, c'est d'abord soi-même. Si on attend des autres, on va perdre. Et de toute façon, on va mourir. Mourir du rejet, mourir du regard des autres. La preuve aujourd'hui, hein, à chaque fois qu'on fait des réunions par rapport au sida, les gens ont peur de venir. Ils se disent, quand on va leur poser la question, tu vas dans quelle réunion? Le sida. Ah, pardon? C'est le problème de l'Africain. Vous avez parlé tout à l'heure, j'ai failli même intervenir pour dire quand il y a des réunions, mais toutes les réunions qu'on fait dans les associations, on ne parle pas simplement de dire que voilà, je suis séropo et que je veux témoigner de la séropositivité. Non, on a aussi besoin des personnes séronégatives, de dire qu'est-ce qu'ils savent et qu'est-ce qu'ils ne savent pas. Parce que c'est vrai que l'information que moi je vais donner, c'est par rapport à mon vécu, l'expérience que j'ai avec le traitement. Moi j'ai un souci avec l'Africain. Ce que il y a le traitement, nous on est ici, on est en règle. On a des médicaments qui coûtent quand même 1000 euros par mois. Quand je vois que tu es en règle et qu'on te donne le traitement, tu ne veux pas le prendre. Et que tu préfères te cacher derrière la religion, il y a un problème. Tout le monde n'est pas chrétien. On a eu des réunions, on a des ateliers qu'on fait, où on invite tout le monde. Mais combien viennent? La prof Khadija est là, combien viennent dans ces réunions-là? De ça ne concerne pas que les personnes séropo, ou l'intellectuel qui connaît déjà, ou l'expert qui connaît déjà. On invite tout le monde, on a fait des affiches, on parle avec les pasteurs. Quand on parle de la religion, on a fait des réunions avec la personne. Moi, j'organise des conférences chaque année. Il n'y a que l'année dernière que j'ai dit, je n'organise plus les conférences. Pourquoi j'organisais les conférences? Je me disais, à chaque fois qu'on me posait une question, est-ce qu'on peut veiller avec le VIH? J'ai interpellé les amis qui sont médecins. J'ai dit, on va faire une conférence sur veiller avec le VIH. On va trouver un endroit. On va courir derrière quelques fruits pharmaceutiques pour avoir des sandwichs, pour avoir à manger, pour avoir ceci. Parce que le noir, s'il n'y a pas à boire et à manger, ils ne viennent pas.
Les Arabes aussi.
Je parle de ma communauté. Je parle de ma communauté. Et ça, je le vis tous les jours. Le docteur Genot est là. On a interpellé les pasteurs. On a fait une réunion avec les pasteurs. Quand un pasteur se lève pour dire, les personnes qui ont le sida, ils l'ont voulu. Moi, je vous parle, je suis chrétienne. Moi qui vous parle, je prêche la parole de Dieu. Ça ne m'empêche pas de prendre mon traitement. Moi qui vous parle, je suis évangélique. Donc, j'ai créé l'association, c'est pour briser le tabou. Donc, il n'y a pas de raison de dire que je brise le tabou, et en même temps, je dis, s'il y a un groupe de parole des séropos, que les autres ne viennent pas. Ou je brise le tabou, je ne le brise pas. Parce qu'il faut savoir aussi ce qu'on veut. Et ce qu'on rencontre dans le monde associatif, ce que les gens pensent, ok d'accord, ils ont de l'argent, mais il y a des personnes qui disent que je ne suis pas séropos, que je raconte n'importe quoi, parce que je suis bien portant. Mais comme a dit Abdel tout à l'heure, ça ne s'écrit pas sur mon front que je suis séropos. Ça ne veut rien dire. C'est que dans le sang, oui, il y a un virus. Ça peut être l'hépatite aussi. Ça peut être le cancer. Ça peut être le diabète. Pourquoi aujourd'hui, quand une personne est diabétique ou il a un cancer, tout le monde, oh, c'est triste. Mais au fait, finalement, nous, on n'a pas envie qu'on nous regarde avec pitié. Ça, ça énerve. On veut qu'on comprenne. Parce qu'au départ, nous aussi, on ne comprenait pas ce qu'on avait. Tout à l'heure, vous avez dit un sidéen. C'est pas vrai, on n'a pas le sida. On est séropos. Donc, non, c'est juste pour dire, c'est ce langage-là qu'aujourd'hui, on veut que les gens puissent avoir plus d'informations. Parce que quand on n'a pas l'information, ce qui tue, c'est le manque d'informations. Ce qui tue, au fait, au niveau du sida, c'est qu'on a l'impression que l'information est simplement au milieu médical. C'est pas vrai. Nous, moi, j'ai eu la chance d'être patiente ressource à Saint-Pierre. C'est-à-dire qu'on a fait un outil aussi pour les personnes qui arrivaient et qu'ils soient au courant ne fût-ce que c'est quoi. Et on a participé à ça. C'était très important. Moi, j'ai eu la chance d'être à Saint-Pierre, d'être suivi à Saint-Pierre et de pouvoir parler avec d'autres malades. Parce qu'il y a des rencontres qu'on fait. Et on s'est dit, oui, c'est vrai, la confidentialité. Mais en même temps, par rapport à qui on veut pas parler? D'abord, il y a la famille qui ne rejette pas ce qu'on a le sida. J'utilise le terme sida parce que c'est ce qu'on dit. Il y a des amis. J'en ai vécu. Parfois, c'est simplement quelqu'un qui t'a vu dans une réunion parce que tu as témoigné, qui pense qu'il a le droit d'aller parler de toi. Moi maintenant, quand on me montre du doigt, j'ai dit, moi au moins je sais ce que j'ai. Mais toi tu ne sais pas.
Je suis d'accord.
Moi je l'ai reparti. Quand une femme me critique, je dis, fais attention, je suis célibataire, je suis veuve, fais attention, ne sois pas avec ton mari, parce que je suis très belle. Donc finalement, moi c'est de l'humour. J'ai dit, le sida, ça se danse, ça se shopping. Donc je peux faire mes courses, ça ne m'empêche pas de vivre bien. Et aujourd'hui je suis grand-mère, donc mon fils a eu un bébé. Donc finalement, je vis même mieux que les personnes qui sont séronégatives. Parce que moi j'ai l'avantage, à chaque fois que j'ai un souci, je cours à l'hôpital. Mais l'autre personne, à chaque fois qu'il a un souci, il n'ira jamais à l'hôpital. Le jour qu'il découvre, il y a combien de séro-ignorants? Les gens attendent que le 1er décembre. Moi, je dis le 1er décembre pour une personne séropo, c'est tous les jours. Parce que tous les jours, je dois prendre mon traitement. C'est pour ça que j'ai créé l'association. Pas que pour les personnes séropo. Les orphelins du sida, il y a 15 millions dans le monde. Ces enfants-là n'ont pas choisi des parents séropo. Mes enfants ne m'ont pas choisi. Quand on se moque de mes enfants parce que séropo, les gens n'ont rien compris. N'ont rien compris. Mais par contre, le sida m'a fait du bien. Maintenant, j'ai un côté humain. Maintenant, j'ai la grande gueule. Je peux dire ce que je pense. Maintenant, je n'ai plus de frein. On m'insulte, j'insulte. On me tape, je fais deux fois. Parce que finalement, et puis je ne donne pas le droit, je ne donne pas la permission à quelqu'un de parler à ma place. Le combat qu'on mène en tant que personne séropo, c'est qu'on ne donne pas la parole. Les gens parlent à notre place. Mais qui leur a dit de parler à notre place? Que le médecin m'explique ce que j'ai, c'est normal, il est médecin. Mais qu'une personne qui n'est pas concernée. Tu vois, dans les réunions sur le sida, vous savez combien de personnes parlent à notre place sans même savoir ce que nous on vit nous-mêmes? Quelle expérience ils ont? Quelle expérience une personne qui n'est pas séropo a par rapport même à la prise de médicaments? Moi, j'ai l'expérience avec le traitement. Je sais que si je ne mange pas, que je prends le médicament, j'ai tous les effets indésirables. Donc souvent, je dis à mes amis, quand vous m'invitez, il faut avoir beaucoup d'argent. Parce que je veux commencer à l'entrée jusqu'au dessert. Si tu me dis, on va au restaurant et que je prends que le plat, je ne pars pas. Avant, j'avais honte. Maintenant, je n'ai plus honte. Et c'est grâce à l'association et grâce à tout ce que j'ai reçu dans les rencontres. Et Aoussa m'a fait encore beaucoup de bien. Parce que ce n'est pas la première fois que je participe dans une réunion où il y a d'autres personnes séropo. Parce qu'en tant que patient ressource, on a entendu les témoignages des personnes. Parce que nous-mêmes, on ne savait pas d'abord ce que c'était être séropo et avoir le sida. C'est comme si tu me dis de partir au Congo à pied. Donc comme je ne peux pas partir à pied, donc tant que je prends mon traitement, donc tout va bien. J'insiste toujours sur le traitement. Et j'ai un souci aussi avec les personnes séropo. Parce qu'il y a certaines qui n'assument pas. Et quand nous on témoigne, ça les dérange aussi. Donc la discrimination n'est pas simplement au milieu d'autres personnes, mais il y a aussi entre nous, personnes séropos. Pourquoi elle témoigne? Pour qui elle se prend? Ben, sorry, moi je vais très bien. Sorry si mentalement je vais bien. Je ne veux pas porter aussi le malheur du monde entier. C'est vrai qu'il n'y a pas que le sida. C'est vrai qu'il n'y a pas que le sida. Mais pour nous, il n'y a que le sida. Demain, on ne sait pas.
C'est pas très vite.
Demain, on ne sait pas. Donc le combat, la sensibilisation, la prévention, ce n'est pas quelque chose d'un seul jour. Donc moi, je suis fatiguée de venir que le 1er décembre. Parce que le 1er décembre, on a tous les médias qui nous appellent.
Claire.
Quand on va chercher sur Internet, association africaine, personne qui... On va directement appeler les Wiki. Je les ai dit de ne m'appeler plus jamais. Je ne passerai ni à la télévision, ni à la radio. Je ne m'appelle pas Madame Sida. Parce que c'est ça, finalement. Donc, tu portes un nom. Finalement, ce n'est pas le nom que tu portes, mais ton nom, c'est par rapport à la maladie que tu portes. Imaginez-vous les personnes qui n'assument pas leur séropositivité, comment ils peuvent vivre? Quand on parle de l'isolement, ça commence par ça déjà. Que tu vas à la pharmacie, prends tes médicaments. La pharmacie est remplie. Comme j'ai plein de personnes qui sont séropos et que je vais à la pharmacie prendre le médicament pour eux. Parce que quand il va arriver et qu'on donne tous ces grands cartons, hein, c'est quoi? Mais qu'est-ce que t'as? Vous savez ce que je fais maintenant quand je mange avec des amis et que certains ne sont pas au courant? J'ai mon pilulier, je fais toujours exprès. J'aime qu'on m'invite le soir, parce que la journée je suis trop occupée. J'arrive, je mets mon pilulier. Quand on me demande, c'est quoi que tu peux prendre comme médicament? Pour mes beaux yeux, pour mon beau teint, pour mes cheveux, pour mes ongles. Il y a tout. Et puis à la fin, t'es sûr de savoir, tu veux savoir ce que j'ai. Et si je veux jeter ses repos? Ah non, moi ces gens-là, non, 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 non. Mais tu blagues ou quoi? J'ai dit, mais je t'ai embrassé, donc je t'ai contaminé. Pas plus tard que hier, je vais à la pharmacie prendre mes médicaments et je suis en train de distribuer les flyers que j'ai pris à la plateforme prévention sida. Et le pharmacien me dit, mais maman, donne aussi à la jeune fille qui est là. Je prends le papier. Quoi? Ah mon père, j'ai déjà fait mon examen. Oh, tu veux que je déprime ou quoi? Elle a commencé à crier dans la pharmacie, je l'ai regardée. Pour une fois, je n'ai pas réagi. J'avais faim. Je n'avais pas encore mangé. Si j'avais mangé, elle allait passer un mauvais quart d'heure. Maintenant, mettez-vous à la place d'une personne séropo et qu'il y a une personne comme ça en face. Demain, je fais quoi? J'ai pas envie de dire. J'ai pas envie de dire que je suis séropo. J'ai pas envie de dire. C'est simplement ça. C'est pour ça qu'on a toujours plein de contaminations. Qu'on a 3 contaminations par jour. C'est parce que même quand on a l'impression qu'on n'a pas fait la sensibilisation, et pourtant on fait. On a l'impression qu'il n'y a pas la prévention et pourtant il y a la prévention. Peut-être qu'on n'a pas bien fait. Peut-être qu'on n'a pas touché vraiment aux personnes. Peut-être qu'on n'a pas bien ciblé. Qu'on soit noir, qu'on soit rouge, qu'on soit un télo. Le système ne choisit pas de race, ni de rang social. Je suis intellectuel, ça ne m'a pas empêché. Qu'on soit prostitué, qu'on soit. Ça ne veut rien dire. Qu'on soit drogué, ça ne veut rien dire. Ma fille qui est là, elle a 20 ans aujourd'hui, elle n'a pas choisi des parents séropos. Je ne pense même pas que sa mère avait voulu contaminer son enfant. Non. Qu'on arrête un peu le jugement. Qu'on arrête un peu. C'est épuisant. Moi, chaque fois que je vais dans les réunions, j'engueule tout le monde. Je crois qu'à un moment donné, ils vont se dire, elle est folle. C'est pas vrai, je ne suis pas folle. J'en ai tellement ras-le-bol d'entendre les gens parler à notre place. C'est vrai que toutes les personnes séropos n'ont pas envie de parler. Et je le comprends aussi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et puis quand on a fini de parler, et puis, parfois on ne les écoute même pas. Qui parlent toujours. Les décideurs ne nous écoutent même pas. Les rares fois même qu'on vous écoute, il y a un directeur de cabinet qui va venir. Oui, madame, oui, mais de toutes les façons, oui, c'est déjà fait. Oui, on sait, mais allez compléter. Oui, et compléter quoi? Est-ce que vous savez ce qu'on fait tous les jours? Se réveiller le matin, savoir qu'on doit prendre les médicaments? Et ceux qui ne travaillent pas. Et je vais vous parler des sans-papiers qui sont là tous les jours, qui n'ont pas l'accès au traitement parce qu'ils ne sont pas en règle. On renvoie dans un CPS. Le CPS dit qu'il faut t'inscrire dans une commune. Et la commune ne peut pas t'inscrire parce que tu n'es pas en règle. C'est-à-dire que même l'accès à l'aide médicale urgente, tu ne l'as pas. Alors qu'est-ce qu'on fait en tant que personne sans repos? Mais je ne sais même pas ce que je prends comme traitement. Si je sais ce que je prends comme traitement, eh bien moi je le fais. J'appelle tous les séropos que je connais. Qu'est-ce que toi tu prends encore? Moi je prends. Toi tu prends encore? Tu prends. Ok, d'accord, il y a une personne qui a besoin de médicaments. Si on peut l'aider ne fût-ce que pour un mois, mais on ne va pas le faire éternellement. Parce que je change mon traitement. Après moi je ne pourrais plus lui donner. Mais quand je donne, c'est-à-dire que moi-même je n'ai pas. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je parle de ceux qui sont en Europe, qui sont sans son papier. Et quand j'entends le ministre de l'immigration qui dit « Allez dans vos pays d'origine parce qu'il y a le traitement », je prends le cas de la RDC. Est-ce que vous pensez que dans un village, au fin fond, il y a centre de référence avec traitement, même à 1$, même à 5$? Non. Les sans-papiers qui sont ici, qui ne peuvent pas avoir le traitement, je me bats aussi pour ça. On interpelle les politiques tous les jours. On est là pour ça. C'est vrai que nous, on est bien, parce qu'on a le traitement. Mais quand je vois aussi mes amis qui ont le traitement et qui refusent de prendre, certains parce qu'ils prient. Certains parce que leur pasteur leur a dit, Dieu va guérir. Il faut avoir la foi. Et qu'ils arrivent le traitement, et là, ils ne vont plus aller à Saint-Pierre ou à Saint-Luc, ils vont mourir à Gand. Ils vont aller à Anvers. Comme ça, au moins, la famille n'est pas au courant. Ou bien, ils sont hospitalisés, on rencontre tout. On rencontre du tout. Moi, j'étais voir un frère qui était malade. Mais j'arrive dans le couloir de l'hôpital. La femme me dit, il faut faire attention quand vous entrez là-bas. Il faut vous couvrir. Mais qui vous a dit de me dire que la personne est séropos? Vous savez, quand on est séropositif, on a l'impression qu'on est la risée finalement du monde entier. Maintenant, on dit non. Maintenant, nous, on dit non, ça suffit. On peut parler. Même si quelqu'un est un alphabète, nous, on est là aussi pour interpréter. Il a son mot à dire. Alors cet outil, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on a entendu tout le monde parler. On avait des Tunisiens, on avait des Marocains, on avait des Congolais, on avait des Belges. Et c'était tellement intéressant d'entendre, on avait l'impression qu'on avait le même langage, c'était finalement le sida nous a réunis. Le sida ne nous a pas éloignés, il nous a réunis, finalement on s'est dit, alors on est une seule race. La race qui est porteur d'un virus qu'on appelle le VIH, mais qu'on va se battre, même si nous on meurt, mais que derrière nous, il n'y ait plus de contamination. C'est ça qu'on veut qu'on arrive. Zéro contamination, zéro décès lié au sida. C'est ce qu'on veut faire. Pas seulement pour les femmes, moi je ne parle pas seulement pour les femmes, mais pour nos enfants aussi, pour nos petits-enfants aussi. Il faut que ça s'arrête. Si les firmes se battent aujourd'hui, mais il faut que les traitements qu'il y a là, que les gens puissent aussi les prendre. Et dire à ceux qui ne sont pas malades, ne venez pas dans mon camp. Il ne faut pas dire, parce que maintenant, quand on dit, bon, avant, c'est la première fois que j'ai le nom d'année que je suis contaminé. Parce que quand je vais dans les écoles, que tu dis à un jeune, ça fait 17 ans, « Ah, oh, madame, vous allez tellement bien, ah, oh, mais donc si je peux être malade aussi, c'est bon parce qu'il y a des médicaments. » Non, 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 non. Les médicaments, ce n'est pas aussi simple. Le VIH, ce n'est pas simple. Pour que j'arrive au niveau aujourd'hui où je peux parler en public, assumer, après 17 ans, je crois que je veux dire à moi-même, chapeau Dani. Parce que c'est vous, le regard des autres, la méchanceté des autres, qui m'a pu finalement être beaucoup plus fort.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions?
D'abord, je remercie beaucoup à Abdel Moulami. Son histoire, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et pareil, Dani. Et je pense que vous êtes vraiment une personnalité exemplaire, je pense. Et je trouve qu'avec avec vos maladies, ça ne s'écrit pas sur. Déjà moi-même, quand vous étiez là au début, moi je ne pensais même pas que vous étiez contaminé. Vous êtes très bien, je trouve. Donc voilà, maintenant moi-même, en vous écoutant parler, je me pose même la question est-ce que moi-même je ne suis pas? Voilà, maintenant, ça me porte beaucoup votre intervention parce que c'est vraiment des maladies qu'on sait, on ne sait pas en fait qui on est, si on ne fait pas des bilans à chaque fois, je ne sais pas, mais déjà, pour faire un bilan, il faut qu'on ait le courage aussi d'aller le faire et de savoir qui on est. Mais je trouve que aussi votre combat, c'est vraiment un cadeau pour nous aussi, ceux qui sont, ben, je ne sais pas moi, mais pour les enfants, comme vous dites, et aussi pour ceux que pour le séronégatif, c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous, et aussi votre force qui va aussi nous motiver à comprendre cette maladie. C'est vrai que, et surtout qu'Abel a bien dit ça, on se préoccupe par la guerre, par ceci, par cela, mais c'est quand même une guerre cette maladie. C'est vraiment une guerre et on l'entend très peu. Et c'est vrai, et c'est vraiment touchant ce que tu nous as dit aujourd'hui, et même Dani aussi, et surtout par rapport aux beaux enfants. Je trouve que chapeau, hein, franchement, et j'aimerais bien aussi d'avoir ce genre de personnalité pour tout le monde, que ce soit aussi pas pour tous les deux, mais c'est aussi même les séronégatifs qui arrivent à faire les mêmes choses, les combats comme ça. C'est vraiment. Merci, quoi.
Merci
à toi. Je voulais juste ajouter quelque chose en fait pour finir. Merci en tout cas pour le compliment, mais donc c'est un parcours,
oui.
Aussi bien le mien que celui de Dani. On se raconte pas quoi, je veux dire, on se construit pas une histoire, on la vit,
on
vit notre vie, et la vie est un combat, on se bat tout le temps, tantôt contre ça, contre l'autre, avec l'administration, on se bat tout le temps, on est tout le temps en train de se battre. Et c'est vrai, la chevée est une guerre, on n'a pas encore gagné. On est en train de se battre.
On peut rêver qu'à gagner.
On a de plus en plus d'armes. On a de plus en plus d'armes, mais on n'a pas encore gagné. Et vous savez, il y a un dicton africain qui dit, et ça devrait vous parler en fait, en parlant de prévention. D'abord, une petite remarque juste avant. Un autre très grand monsieur, très grand penseur a dit, donc ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous. C'est Mahatma Gandhi,
oui,
qui a dit ça, et donc c'est très clair. Autrement dit, si vous voulez, si on veut une prévention efficace, nous devons faire en sorte que le public auquel on s'adresse adhère,
oui,
à la prévention qu'on veut mettre en place. Et le dicton africain lui dit, vous pouvez bien forcer, on peut amener un lion de force jusqu'à un point d'eau, mais on ne peut pas forcer à boire. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment que tout le monde soit impliqué, en fait, se sente impliqué au minimum, et soit impliqué, si possible. Si pas pour gagner la guerre, au moins pour gagner cette bataille, en tout cas, jusqu'à ce qu'on trouve le remède, si des fois on devait le trouver.
En fait, c'est quoi la différence entre les séropositifs et les sida même en elle-même, quoi?
Khadija,
réveille-toi.
C'est parce qu'elle a dit, oui, on est sidéen tout à l'heure, mais on n'est pas sidéen. J'aimerais bien si c'est possible.
Oui. Bah, c'est-à-dire que quand on est séropositif, c'est-à-dire qu'on a contracté le virus. Hein, donc voilà, on est contaminé, mais on n'est pas nécessairement malade. C'est-à-dire le virus est là, il dort, voilà. Mais si la personne ne se soigne pas, ne se dépiste pas d'abord, ne se soigne pas, etc., le virus, il a le temps de faire des ravages dans le corps. Et après X temps, ça dépend d'une personne à l'autre. Hein, il y en a qui peuvent résister 2 ans, il y en a qui peuvent résister 10 ans. Ça on ne sait pas, et donc à ce moment-là on passe au stade du sida, c'est-à-dire que l'immunité est tellement basse que le virus s'est tellement multiplié qu'on peut attraper des maladies, ce qu'on appelle les maladies opportunistes, Hein, ça peut être la tuberculose, ça peut être la pneumonie, etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on dit qu'on est dans le stade sida. C'est-à-dire que, voilà, donc on passe, si vous voulez, au deuxième stade. Mais séropositif, c'est simplement qu'on a le virus, qu'il est en nous, mais qu'on ne développe pas de maladie ou des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, l'information. Et donc, voilà, parler avec les femmes, avec votre public, etc., c'est très, très important. Le dépistage, donc ne pas avoir peur de se faire dépister, etc., puisque les solutions existent ici, hein, donc on peut avoir une prise en charge globale. Donc, Dani parlait des traitements qui coûtent plus ou moins entre 800 et 1000 euros par mois, mais ça, c'est payé par la sécurité sociale, donc la personne ne doit pas payer ça. Elle paye sa consultation, bien sûr, les prises de sang, comme tout le monde, mais les traitements sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est très important pour les cas de faire la distinction, et c'est pour ça aussi que les gens ne font pas attention, parce que comme ils restent asymptomatiques, comme disait Abdel, pendant très longtemps, donc ils ne ressentent rien, ils ne sont pas malades, ils ne maigrissent pas nécessairement, donc il n'y a rien qui se voit, donc on ne fait pas attention et on ne va pas faire le test. D'autant plus que dans notre population, le terme de prévention n'a pas beaucoup de place. On va chez le médecin quand on est malade. Mm-hmm. On ne va pas chez le médecin pour savoir si on est malade ou si mm-hmm. on a quelque chose. Donc c'est vrai, c'est pour ça la spécificité de parler à des publics auxquels on touche. C'est vraiment pour expliquer toutes ces notions-là. C'est-à-dire qu'on va faire de la prévention pour les bébés. Hein, les enfants, ils ont une grande importance dans cette population. On va voir le pédiatre, on va faire les vaccins. Donc cette prévention-là est bien gérée. Mais quand on est adulte, le terme de prévention ne veut plus rien dire. Et donc on ne va pas aller faire le dépistage pour savoir si on a ceci, on a cela. On va aller voir le médecin quand on est malade. Et c'est ça qu'il faut un petit peu travailler. Ouais.
Il y a la dame et puis...
J'aimerais bien juste savoir un peu le réflexe ou qu'il est le moment où, par exemple, au lieu que de permettre à la maladie de descendre vers le bas, parce que je sais que c'est une maladie douloureuse, honteuse et tout ce qu'on suit, quel est le déclic qui a fait que tu as permis cette maladie d'être un peu presque ta copine? Et monter ensemble, te libérer, t'enrichir et devenir la femme que tu es aujourd'hui.
Le premier déclic, en fait, j'avais arrêté mon traitement et j'avais rendez-vous avec mon gynécologue à Saint-Pierre, docteur Manigard. Et puis il m'a regardé et il a dit, t'es une jeune fille. Je ne vais pas dire t'es une jeune maman. Ton mari est décédé, tu as des enfants et tu as envie de mourir, pourquoi? J'ai fait, docteur, mais ces médicaments, il dit non, vous devez revenir à l'hôpital. Vous devez reprendre votre traitement. Puis j'ai fait, ok, d'accord, c'est bon. Oh, mais quand même, ces trucs, ils ne se rendent même pas compte et tout. Et après, j'ai fait la connaissance de Khadija. Et finalement, on se rend compte que il y avait notre infirmière aussi, Sabine, qui était là. Je me suis rendu compte que chaque fois que je venais peut-être à l'hôpital, j'avais pas cette air d'être une personne considérée comme... ses repos. Donc on me parlait en tant en fait qu'humain. J'ai dit, mais finalement, si j'ai pas d'amis dans la rue, au moins si je vais à l'hôpital, je peux papoter comme j'aime parler. Je peux papoter 10 minutes avec Sabine et parfois on prenait le bus ensemble. Et comme elle parle beaucoup comme moi, donc on parlait, elle avait plein d'exemples sur la maladie et tout, et c'était génial. Quand j'avais un moment de coup de cafard, il y avait une psy que j'aimais beaucoup, donc avec qui je parlais, Marcella, donc je parlais. Et finalement, la méchanceté des gens m'ont rendu tellement beaucoup plus sûre de moi. Et puis j'ai dit, ah mais si je faisais l'association. C'est vrai, quand ça a commencé au départ, les gens ne venaient pas. Hein, les Africains ne venaient pas, les Congolais ne venaient pas parce que je suis Congolaise. Et alors c'était marrant. Et quand je passais à la radio, donc on a une radio qu'on appelait Radio Panique. Et comme c'était un ami, donc à chaque fois il disait, il faut que tu viennes et que tu passes. Et lui, ça a été aussi un support. En tant qu'homme, il me disait, tu es tellement belle que même moi j'ai envie de sortir avec toi parce que je sais que moi avec toi, je serai protégée. parce qu'on va toujours utiliser le préservatif. Alors je rigolais. Il dit, tu vois que tu peux rigoler. Donc, prends la vie du bon côté. Vis d'abord pour toi. Je crois que toutes ces personnes m'ont fait du bien. Et je crois que grâce à eux, je vis. Et maintenant, même si je ne les appelle pas souvent, même si je passe tout le temps à l'hôpital, parce que je n'y vais plus tout le temps comme avant. Avant, j'y allais tous les mois. Donc, c'est vrai que quand tu vas tous les mois à l'hôpital, tu tisses aussi des liens. Tu tisses beaucoup des liens. Et avec l'association, j'ai un ami qui est médecin à Saint-Luc et il me disait chaque fois, en fait, tu n'as pas intérêt en fait, à mourir parce que moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Donc, et pourtant, il est infectiologue. Il dit, tu n'as pas intérêt à mourir, tu as intérêt à rester en vie et je vais me battre pour que tu restes en vie. Et je rigole, j'ai dit, mais j'ai pas envie. Il dit, on va travailler ensemble. Tu vas commencer à faire des conférences. Moi, je vais trouver des médecins qui vont participer. Et j'ai dit, ouais, mais c'est pas évident. Les médecins, je trouve, ils sont tellement bizarres, ils sont compliqués. Oh, ils n'ont jamais le temps. Comment je vais faire et tout. Et on se retrouve dans un programme à Saint-Pierre où il fallait être patient de ressources. J'ai dit, ouais, chouette, déjà que je parle beaucoup, ça va être intéressant. Donc, et j'ai rencontré d'autres malades aussi. Et j'arrivais au fait à Saint-Pierre à l'accueil et il y avait plein de monde. Et je prenais au fait les papiers pour. Et je donnais, je dis, il faut venir, c'est intéressant. Alors j'ai vu une femme congolaise, elle me regarde, elle dit, quoi, tu es malade? J'ai dit, non, justement le VIH, mais je ne suis pas malade. Parce que quand on dit que tu es malade, c'est comme si. À l'article de la mort. Et j'ai commencé et finalement c'est devenu normal. Et finalement, c'est vrai qu'il y a des jours, j'oublie que je suis ces repos. Je me rappelle parce que je dois prendre mon traitement. Mais en dehors de ça, je bouge tellement aussi que en fait, je fais plus attention. Et avec les médecins, et à un moment donné, quelqu'un m'a dit, non, les médecins ne sont pas ce que tu penses. Il y a ceux qui sont gilets, il y a d'autres que j'ai l'impression qu'ils sont trop intello. Donc, ils vont venir avec. Et alors, on allait dans les séances, et quand on voyait les médecins écrire pour nous expliquer c'était quoi le sida, c'était quoi la prise de traitement, c'était quoi ceci, on était là, pardon, quoi? Parler notre langage, je n'ai pas l'UNIF ici, mais c'était vraiment chouette. Et j'ai fait la connaissance du docteur Genotte, donc avec elle, j'ai pu quand même aussi beaucoup. On a eu l'occasion, grâce à elle, que les pasteurs puissent venir dans des réunions et qu'ils comprennent qu'on n'est pas là pour les attaquer, on n'attaque pas la religion, on n'attaque pas, et d'aller dans les assemblées et parler. Et finalement, c'était chouette. Finalement, j'ai dit que le sida m'a appris quand même pas mal de choses. Donc voilà.
Merci beaucoup, Dani. Ton histoire constitue tout un support de sensibilisation. Et je ne sais pas combien de fois tu as déjà eu à raconter ton histoire telle que tu viens de nous raconter. Mais mon souci, c'est de vouloir comprendre et savoir si dans ton milieu, tu as pu avoir des personnes qui ont adhéré à ta vision.
Oui, beaucoup.
Ta façon de voir.
Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Avant, j'organisais des dîners, sur 100 personnes, peut-être 20 venaient, les premières années, du style, il faut faire attention. Et quand je faisais la sensibilisation en plein air, donc à la gare du Midi, hein, l'espace de l'Europe, devant les autorisations, la foire du Midi, on met des stands, je demandais aux mamans congolaises de faire à manger, là je pouvais distribuer les préservatifs, on ne m'accusait pas. J'ai donné le ruban rouge, j'obligeais les gens à porter le ruban rouge, je disais que non, il faut sensibiliser, c'est important. Pardon ? Ah ok, d'accord, là on a 2000, 3000, 4000 le dernier jour, parce qu'il y a la musique, il y a la nourriture, il y a la bière, il y a les femmes, il y a les hommes. Eh ben, les gens accrochaient. Finalement, j'ai dit, ah pourquoi pas. Alors chaque année, moi j'appelle ça nocturne séropo. On s'est dit, on a commencé par un peu sensibiliser au fait nos décideurs, c'est-à-dire qu'au niveau des ambassadeurs. On a parlé, on fait. Ils ont commencé à comprendre. Et chaque année, je fais au fait un dîner, le 1er décembre, que ce soit un lundi, un dimanche, peu importe, mais dans un restaurant africain, que les gens, les Africains connaissent très bien. Je ne peux prendre que 100 personnes. Au début, c'est vrai que j'avais 20, 25, plus ma famille, mes connaissances. Maintenant, tout le monde veut, c'est-à-dire la place où il faut être. Là, aujourd'hui, les gens continuent encore à m'appeler pour dire, je serai là, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, j'ai fait le Facebook de l'Ibiki, où j'ai croisé 560 j'aime. Ce ne sont pas que mes amis. Et les gens commencent à appeler derrière pour demander comment je peux faire mon dépistage. Est-ce que tu penses qu'au départ, ils venaient pour mentir? Oui, j'ai un ami, j'ai l'impression qu'il a eu une relation. J'ai dit, oui, l'ami s'appelle comment? Vous-même ou vous pensez quoi? Constitue-toi, c'est beaucoup mieux. Oui, mais bon, tu me connais, en plus tu connais ma femme. J'ai dit, peut-être pas. Moi, je ne dis pas la peau de Namur. C'est parfois, je rencontrais d'autres malades qui venaient à l'association. Le fait de me voir dans un salon de coiffure, ils ne me saluaient même pas. Je dis, mais bon, je connais cette tête. Et quand je vois les jeunes gens qui sont dans l'association, des filles qui sont tombées enceintes, elles sont sans repos, et qui n'ont pas dit à leur partenaire, moi je pleure. Mais je n'ai pas le droit de dire à leur partenaire. Mais j'ai le droit de les engueuler, de dire, c'est pas juste. J'ai la réponse. Mais, comme on m'appelle toujours maman, mais maman, moi je ne sais pas qui m'a contaminée. Mais une fois qu'ils ont des enfants, parce qu'ils sont suivis, mais les copains ne sont pas suivis. Donc vous voyez que, même quand je fais des dîners, j'ai toujours un moment où j'ai besoin de parler. Donc maintenant, on est 100 qui viennent chaque année. J'ai les orphelins du sida au mois de mai, parce que c'est une journée mondiale des orphelins du sida, et j'ai le 1er décembre. Mais même quand je fais une belle soirée entre femmes, je n'ai pas de place. Mais je n'ai pas envie de faire ailleurs que chez India, parce que faire ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut gérer 400, 500 personnes. Pour le moment, j'ai pas encore cette... Mais au moins, là-bas, j'ai pas moi qui fais à manger. Hein. C'est dans un resto, il y a le buffet. Hein. J'impose un dress code. Le rouge ne doit pas manquer. Le ruban rouge ne doit pas manquer. Et les préservatifs, je ne peux plus les mettre avant. Avant, je mettais, les gens ne prenaient pas. Maintenant, quand je mets, les gens même volent. Tu mets un seau dans les toilettes. Et puis après, on t'appelle, mais il n'y a pas de préservatif. Avant, je donnais aux hommes, ils me disaient, oui, mais quand ma femme va voir que je dis quoi, je dis, il faut dire que je vous ai donné le préservatif, comme ça je ne vais pas vous contaminer au cas où. Maintenant, on a beaucoup, de plus en plus quand même. C'est vrai que maintenant, ce qu'on leur demande, c'est de parler aussi dans leur maison. Il ne suffit pas de venir dans un dîner ou dans une réunion. On n'a plus besoin de faire des conférences où il n'y a que les mêmes personnes qui viennent. Là, on va commencer l'atelier cuisine dans 2-3 semaines. Dans la télé cuisine, c'est pour permettre, si une personne sans repos veut venir, il a envie de témoigner, il témoigne. Mais on veut parler autour d'une table, parce que nous on aime manger. Alors autour de la table, chacun veut dire ce qu'il pense. C'est plus facile. Ah, un peu une goutte, moi je ne bois pas. Un peu de vin, un peu de bière, champagne, pourquoi pas. Mais quand même que les gens puissent avoir posé des bonnes questions. Parce que quand on n'a pas une bonne information, on pense que si je salue une personne qui est sans repos, il va me contaminer. Moi, j'ai travaillé, j'ai arrêté de travailler. Là où j'ai travaillé, je suis tombée malade, j'avais une grippe. Et mon patron m'a posé une question, bête question. Dany, au fait, ton mari est mort de quoi? J'ai dit, elle était sans repos, donc il est mort du sida, donc d'une maladie liée au sida. Ah, ok. Ça fait le tour de tous les bureaux. Le jour que j'ai attrapé la grippe, je toussais. Toutes les portes sont fermées. Commerciales, hein. Toutes les portes sont fermées. On a jeté tous les verres dans la cuisine. Il y avait maintenant des verres jetables. Donc je l'ai vécu. J'ai supporté pendant une semaine. La deuxième semaine, j'ai dit, non, je dois sortir d'ici la tête haute. Je leur ai dit, moi j'ai l'avantage d'être sans repos. Vous avez le désavantage d'avoir une maladie où il n'y a pas beaucoup de recherche. Parce que l'avantage avec le sida, les médecins n'ont pas le choix que de trouver une solution parce qu'on est 40 millions. Donc Dany est dans les 40 millions. Vous imaginez qu'il y a un médecin, un chercheur tous les jours qui dit que Dany ne doit pas mourir. Et pourtant, il ne me connaît pas. Donc, comme il ne veut pas que je meure et puis il ne veut pas qu'il y ait d'autres Dany demain, donc, moi, je quitte. Je ne travaille plus. Et tu me regardais. J'ouvre à chaque bureau pour dire, je ne tiens pas ma révérence. N'oubliez pas, moi je vais vous enterrer, parce que je vivrai longtemps, tant qu'il y aura le traitement, et je continuerai à prendre le traitement. Si je dois être cobaye, je serai. Mais j'ai l'avantage sur la vie. Ils sont restés comme ça. Ils m'ont rappelé après, j'ai dit, je ne travaille plus. Je préfère rester au chômage et faire ce que je fais de bien. Soutenir en fait le combat, la lutte contre le sida. Et ça, je le fais très bien.
Merci.
Je voulais dire aussi, Dany, votre rôle dans le repêchage des jeunes qui sont infectés par transmission verticale et qui ont parfois 20, 25 ans. Certains sont plus jeunes, mais en tout cas sont, sont fatigués d'avoir pris le traitement depuis si longtemps et parfois ils décrochent. Et c'est parfois grâce à vous qu'ils reviennent dans les consultations. Vous pouvez le faire souligner ça aussi.
Non, moi je voulais dire merci. Merci à tout le monde. Merci. On a besoin de vous. Mm-hmm. On a besoin de vous. On ne peut pas refuser au fait l'aide. On ne peut pas refuser. On a besoin de soutien. C'est un combat qui nous concerne tous. Moi, je dis, parfois, on pointe du doigt les firmes pharmaceutiques. On dit que, oui, il y a les vaccins, ils ne veulent pas donner. Ce n'est pas vrai. Je ne pense pas qu'un humain qui a un traitement pour donner va refuser, soi-disant, au nom de l'argent ou de quoi. Il faut qu'on arrête de prendre des mauvaises informations. Il faut qu'on s'informe, il faut qu'on soutienne. Il ne faut pas qu'on laisse, qu'on dise qu'ils ne veulent pas qu'on les aide. Ça, ce n'est pas vrai. On est toujours là en fait, pour écouter aussi les autres aussi. On a besoin de nouveaux slogans, de nouveaux messages en fait. Je crois que le message qu'on a donné depuis longtemps, peut-être que ça n'est plus d'actualité. Moi, mes filles, ma fille me dit, mais arrêtez, on a l'impression que le sida c'est lourd. Parler différemment, donner d'autres exemples, parce que l'image qu'on a, c'est vous allez mourir demain, et pourtant c'est pas vrai. On a besoin aussi des personnes séronégatives qui viennent dans les associations pour dire, bon voilà, on est là aussi pour soutenir. Hein, on ne veut pas faire aussi des ghettos des personnes séropos, ça on n'en veut pas. Moi qui vous parle, je peux pas sortir avec une personne séropos, parce que je me dis, on va parler de quoi? De traitement? Oh non. Donc, la personne avec qui je sors est séronégative. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible finalement. C'est possible, donc il suffit seulement de se protéger. Merci encore, merci Khadija.
Merci à...
Là, j'ai failli te faire une infidélité. Je devais partir à... Mais merci, 30 ans de sida, merci.
Oui, c'est le dernier mot, et là j'en ai fini alors. Si on se sent à l'aise aujourd'hui avec ça et qu'on peut en parler tranquillement, on peut dire ça. Je crois, c'est mon avis, tu peux pas dire, voilà. Je crois qu'en fait au mieux on connaît notre maladie et les traitements qui vont avec pour la guérir. En fait, on finit par adapter notre comportement. En gros, c'est un peu ça. Au plus on en sait sur ce virus, sur cette maladie, sur les traitements de cette maladie, sur les effets secondaires de ce traitement de cette maladie, au plus on est à même d'adapter notre propre comportement par rapport justement à toutes ces informations qu'on reçoit. D'où la nécessité effectivement de s'informer d'abord, de se former peut-être, pourquoi pas, et de diffuser certainement l'information. Ça, c'est bien. Je vous remercie en tout cas.
Merci beaucoup, Abdel, merci pour et donc l'outil sera disponible bientôt. Si jamais vous voulez commander un bon moment, c'est gratuit et donc il sera bientôt. Sinon, je voulais juste dire encore merci des Camerounais quand vous dans le cadre de notre exposition Révolution et Femmes, Révolution arabe et Femmes qu'on peut aller visiter dans la boutique culturelle ici. Et voilà, il y a des catalogues qui peuvent les prendre. Merci beaucoup et
merci à vous.
Bonne soirée. Voilà. Et alors on peut boire quelque chose aussi. Je pense que Anne-Françoise va te dire quoi. Et ça, tu dis c'est mieux aux femmes qui a mais je t'ai pas vu entrer, toi, je vous t'ai pas vu entrer. Je me dis, mais. Toute surprise. Voilà.
C'est enrichissant.
Ben oui, tout ça.
Vous avez pas un trio comme ça.
Complété.
Dans ce qu'on est depuis des années.
Oui, c'est pas quelque chose que tu peux faire.
Non. C'est... Les cœurs sont unis et
Quelle heure est-il? Il est, moi je suis à l'hôpital, 4h10.
je vais y aller.
Tu dois venir.
Je suis invitée par Myriam, sa compagne.
Ouais.
J'ai un mot à couscous. C'est la face chouette d'air.
Thank you.
mieux à se venir sur les sujets, regarder ce que tu penses. Non, c'est très bien ça.
Non, pour moi, j'ai une
Ah,
que malheureusement ça n'avait pas parlé de la communauté arabe et que lui, elle est invitée. Que des sources qui disent justement que oui, je l'ai dit, mais il n'ose pas. Je pense que pour lui,
il y a souvent des portes qui sont ouvertes, même au niveau de la fédération. de la fondation qu'on rejoint et je me projette en besoin d'approcher ce projet.
Merci.